La bibliothèque de Radio Orient, des regards croisés sur la littérature. La bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.
L'invité de la bibliothèque de Radio Orient est Guillaume Jobin. Vous publiez Oriental Express, un roman publié aux éditions Casa Express. Alors Guillaume Jobin, vous avez publié des ouvrages historiques sur Lyautey et les rois Mohamed V et Mohamed VI. Oriental Express est un roman dont l'action se déroule en grande partie en Algérie et au Maroc. Vous aviez précédemment publié deux autres romans, Route des Aères et Route d'Anfa. Oriental Express est à la fois un roman politique et un roman d'espionnage. C'est un livre très renseigné sur les crises géopolitiques de la région. Vous évoquez des faits d'actualité récents pour leur donner une cohérence et les inscrire dans un mouvement général. Alors dans ces pages, on retrouve l'atmosphère du Bureau des légendes, cette célèbre série française qui sera d'ailleurs bientôt adaptée aux États-Unis. Mais c'est aussi, il faut le dire, souvent un roman très drôle. Le roman d'espionnage, Guillaume Jobin, obéit à des règles, à des codes, notamment le fait que tous les faits imaginés doivent être crédibles.
Il y a deux écoles dans les écrivains d'espionnage. Il y a les grands, c'est-à-dire pour moi, il y a Gérard de Villiers, John le Carré, eux, puis d'autres moins connus comme en France, comme Percy Kemp, etc. Eux s'inspirent de faits réels, c'est-à-dire que le fond de tarte, les fruits, la crème pâtissière, si vous me pardonnez une métaphore culinaire, tout est vrai. La seule fiction qu'ils s'accordent et que je m'accorde aussi, c'est la combinaison après des faits entre eux pour en tirer un roman. Mais il y a une autre école aussi, comme par exemple au SS 117, qui est de faire purement de l'imaginaire, mais moi je sais pas faire.
Alors je ne voudrais pas dévoiler l'intrigue de votre roman, mais vous bâtissez un scénario de crise au Maghreb. Depuis les attentats du 11 septembre, les services de renseignement du monde entier imaginent des scénarios dignes de Hollywood pour être prêts à toute menace. Certains services recrutent même des romanciers parce qu'ils ont plus d'imagination que les responsables politiques ou militaires pour concevoir des scénarios de crise. C'est ce qui vous passionne dans la fiction, imaginer ce qui pourrait se passer dans une région donnée à partir de l'actualité?
Je suis parti de plusieurs faits, en fait, la politique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toujours le rapport entre la France, ancienne puissance coloniale ou protectrice, ou pas toujours d'ailleurs selon les pays, et les pays arabes. Ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est ce rapport-là. Et le rapport politique. Alors là, pour une fois, je n'ai pas parlé du Qatar, du Liban, des pays où j'ai passé pas mal de temps. Je me suis concentré sur l'Algérie, sur le Maroc, et puis après, j'ai pris aussi donc dans cette relation triangulaire, la relation Algérie-Maroc, où on s'insulte sur les réseaux sociaux, et puis la relation où on insulte la France parce que la France refuse de donner des visas, et puis de regarder comment les services secrets, parce que c'est ça qui m'intéresse, et les dessous de la politique. Donc par exemple, la visite d'Emmanuel Macron en Algérie, pour moi c'était du pain béni, parce qu'il suffisait de suivre la presse des trois pays, toute la presse, alors j'ai passé des heures à faire des recherches, c'est un gros travail de recherche en fait ce roman, j'ai passé des heures à essayer de décortiquer, puis après à analyser ce qui s'est passé. Alors après, au Maroc, mais je pense que tous les auditeurs arabes me comprendront, au Maroc, les gens m'appellent Al-Chouaf, ça veut dire celui qui voit, le voyant. Parce que j'arrive à décrire quelques mois à l'avance des choses qui vont se passer, je suis très prétentieux aujourd'hui, mais par la seule puissance de mon imagination. Je prends un exemple. Je trouve que les services français sont mal structurés, pour ce qu'on en sait de ce que je lis dans la presse, et j'imagine, moi, une structure matricielle qui ne dépend pas des structures classiques de tous les services, vous savez, avec renseignement d'un côté et action de l'autre. Eh bien, qu'est-ce que fait la DGSE le 1er février? Elle annonce qu'elle vient de mettre en place une structure matricielle. Là, je me dis, ça y est. Il y a aussi d'autres petits points sur lesquels je découvre qu'en fait, j'avais raison un peu à l'avance, par exemple, où j'avais découvert des faits. Je fais parler des fonds secrets de la DGSE. Il y a une histoire qui a défrayé la chronique il y a une quinzaine de jours sur les fonds secrets, donc j'en parle. Mais c'est un peu le hasard, mais le hasard fait bien les choses.
Alors, le héros de votre roman, Guillaume Jobin, s'appelle Alexandre Laville. Il est agent de la DGSE, opérant au Maroc. Qui est-il?
Alors, au départ, c'est un jeune journaliste qui est recruté comme à la fois comme une sorte d'espion la petite semaine, c'est-à-dire qu'il fait son travail de journaliste indépendant, mais avec les Russes, d'ailleurs. Enfin, dans le précédent roman, j'avais un peu déliré. Et puis là, il est devenu carrément agent de la DGSE, travaillant sous couverture de journaliste, et il s'associe avec une autre journaliste femme, donc qui est franco-algéro-marocaine, Et c'est eux qui vont dénouer le fil d'une tension qui va monter. Ben, Nesrine, elle existe vraiment. Donc, j'ai pas eu besoin d'inventer beaucoup. Elle existe vraiment. Alors, pour noyer le poisson, entre guillemets, je prends pas des personnages tels qu'ils existent. Donc, la Nesrine du roman, je résume. Dans le roman, c'est une jeune de banlieue parisienne, fortunée. Elle est franco-algérienne, algérienne de naissance. Elle fait une école de journaliste. Ça, c'est pour faire de la pub pour mon école. Et elle est recrutée par la DGSE. Alors, je me suis inspiré de trois personnes. En fait, trois filles à peu près du même âge qui ont 25 ans et que j'ai regroupées en une seule que j'ai appelée Nesrine. Parce que si celle à laquelle je pense, elle existe vraiment et elle serait à risque si je dévoilais trop de renseignements sur la réalité de sa personne. Et je l'ai rencontrée totalement par hasard. Sa fonction, en fait, elle a le même rôle qu'Alexandre. Alexandre a été envoyé par les services français au Maroc initialement pour voir si... il y aurait pas si jamais il se passait quelque chose du type un deuxième printemps arabe, puisque je vous rappelle qu'à l'époque les gouvernements occidentaux avaient été pris de dépourvu devant la vague des printemps arabes. Nesrine, son rôle aussi, c'est de voir si faire la même chose en Algérie et de voir aussi si les tensions au sein de la société algérienne, puisqu'on a le Hirak, il y a les mouvements kabyles, de voir si ce qui se passe de l'intérieur et pas toujours par les diplomates qui eux ne voient que la surface des choses en tout cas.
Guillaume Jobin, même si c'est une fiction, votre livre s'appuie sur une solide documentation. Le rôle des espions, c'est avant tout de fournir à leur gouvernement une information, des analyses qui sont plus fines, plus précises que celles de la presse ou des experts pour pouvoir anticiper des crises, voire des guerres.
Alors, comme je suis sur une radio de qualité, je ne vais pas dire du mal des journalistes, mais... quand j'écoute, d'abord, le journaliste vit dans l'actualité, l'espion, entre guillemets, enfin l'agent, je préfère dire l'agent des services, vit dans la durée. Donc il ne s'inscrit pas dans ce qui s'est passé hier ou demain, c'est ce qui se passe depuis 2-3 ans ou ce qui va se passer. Deuxièmement, il faut pouvoir pénétrer dans toutes les couches de la société. Si vous ne voyez que les gens du haut de la société, c'est-à-dire les puissances dominantes, que ce soit les énarques en France, le Marzen au Maroc ou le FLN en Algérie, vous perdez ce qui se passe dans la société. Donc leur rôle, c'est aussi de sentir ce qui se passe, de voir les mouvements de fond. Je pense que si la France avait pu sentir, dans les années 90, ce qui s'est passé en Algérie, ou même en... moi, par exemple, j'étais en Syrie 3 mois avant le déclenchement de la désinsurrection en fin 2010. Donc j'étais pour le travail, mais je n'ai absolument rien senti. Moi, je suis pas espion, mais je n'ai rien senti qui bougeait dans la société 3 mois avant que ça explose. Donc leur travail, c'est ça, c'est vraiment de s'insérer, d'avoir un tissu relationnel qui permet de c'est, je sais pas, c'est un rôle de, c'est un peu comme un détecteur de mouvement dans un jardin, vous voyez, c'est un peu ce rôle-là. On n'est plus à voler les secrets de la bombe atomique ou des mirages, quoi. C'est un peu passé d'époque.
Alors, autre personnage dans votre roman, il s'appelle Percier. Il joue un rôle important au sein de la DGSE. Et pourtant, vous écrivez ceci, sa femme l'ennuie, ses enfants le prennent pour un petit fonctionnaire diplomate sans ambition. Lui, l'homme le mieux informé du monde arabe. C'est un aspect assez comique de votre roman. Vous montrez le drame des espions à qui il est interdit de se vanter de leurs exploits.
Percier, pour la petite histoire, enfin, je n'ai pas tout dévoilé dans le livre, mais c'est un officier de cavalerie, entre guillemets, c'est un aristocrate, un petit aristocrate, et c'est un gars qui travaille pour l'honneur et le service de la France. C'est un ancien militaire, un ancien officier. Percier, il sait beaucoup de choses, il est détesté et pas écouté à l'Élysée, ses patrons font de la politique et s'occupent pas de lui. Et à un moment, il dit à une autre page dans le bouquin, c'est la politique arabe de la France, aujourd'hui c'est moi. Mais comme il a aucun pouvoir ou pas grand chose, il se passe pas grand chose. Percier, en fait, c'est un personnage entre guillemets qui m'a inspiré un livre qui m'a passionné quand j'avais 30 ans. C'est l'arrangement d'Elia Kazan. Alors je sais plus ce que fait le héros dans le livre, mais c'est un type qui vers 40-50 ans découvre que sa femme l'ennuie, que son boulot l'ennuie, que tout l'ennuie. Enfin, il y a rien qui l'intéresse et qui cherche un sens à sa vie. Et Percier, il en a trouvé un, c'est le monde arabe. Mais pour le reste, il n'a pas de sens.
On avait cru qu'avec la fin du régime communiste en Europe de l'Est, ce serait la fin de l'histoire. Et finalement, la fin des espions. Vous nous montrez à travers ce livre que ce type de travail a une importance capitale aujourd'hui.
Paradoxalement, ça a plus d'importance que pendant la guerre froide. Pendant la guerre froide, ce que m'ont dit des retraités de la DGSE, c'est qu'il y avait une sorte de modus vivendi entre les espions de l'Est et les espions de l'Ouest. Donc on se tuait pas, on se pourchassait pas, on suivait même pas parce que ça servait à rien, avec le contre-espionnage qui était un peu actif. Mais On voyait à peu près où en étaient les choses. Puis dans un sens, ils avaient un rôle aussi de prévention d'un éventuel conflit nucléaire. Aujourd'hui, ça tire, enfin entre guillemets, ça tire de partout. Entre les Kurdes au Moyen-Orient, les Turcs qui ont une politique qui part dans tous les sens, les Russes et les Ukrainiens, les Daesh, enfin feu Daesh, heureusement il n'existe plus. Les gouvernements d'Afrique subsaharienne qui mettent les Français à la porte à tour de bras, il y a de quoi travailler aujourd'hui. Et c'est justement d'ailleurs la raison invoquée dans la presse, hein, j'invente rien, de la réorganisation de la DGSE, c'est la faillite des services secrets, des services politiques et des services diplomatiques de la France en Afrique subsaharienne.
Alors votre roman, Guillaume Jobin, Oriental Express, est très actuel, puisque vous évoquez par exemple les restrictions de la France en matière de visa, vous évoquez la première ministre française, le début de la guerre en Ukraine. Le roman s'est-il écrit au fil de l'actualité ?
Alors oui et non, c'est-à-dire que c'est un roman qui demandait un très gros travail préparatoire, notamment sur le plan militaire. Et sur le terrain, d'ailleurs, parce que tous les lieux dont je parle, j'y suis allé, sauf un seul. Donc quand je parle d'une route ou d'un truc, j'y suis passé, j'y suis allé à pied, en voiture, etc. Et ensuite, il me manquait l'intrigue et vous savez, comme au théâtre, d'ailleurs, j'ai un peu pris la métaphore du théâtre, l'unité de temps, et je me suis dit, 2022, je sais pas, j'ai eu un déclic, je suis parti à Oman, et là, j'étais sur mon petit hors-bord en mer d'Oman. Et j'ai eu alors la révélation. Je me suis dit, je tiens mon bouquin, j'ai tout ce qu'il faut en 2022, et je rentre à Paris, le lendemain, c'est la guerre en Ukraine. Alors, c'est très cynique ce que je vais dire, mais pour un romancier ou pour un journaliste, malheureusement, des drames comme ça, c'est fournisseur d'informations et d'inspiration.
Alors, il y a un ton mordant dans votre roman comme dans vos précédentes fictions. Le narrateur s'amuse par exemple des clichés journalistiques et visiblement vous avez pris plaisir à vous moquer gentiment des facilités de langage de certains confrères. Je rappelle que vous dirigez l'ESJ qui est la plus ancienne école de journalisme du monde et qui est basée à Paris.
Absolument. Je vais dire, je vais encore manquer de modestie, c'est aussi la plus grosse en effectif. Oui, parce que je passe mon temps en fait à corriger les élèves en leur disant ne parlez pas comme des journalistes, apprenez à parler français correctement, vous êtes l'élite de la langue de ce pays. Donc après, quand vous irez dans les rédactions, vous pourrez prendre l'éthique de langage des rédactions. Mais pour le moment, quand vous sortez de l'école, je veux que vous parliez parfaitement le français et que vous l'écriviez parfaitement. Donc après, je fais des petites moqueries. Je suis assez ironique de nature, donc.
Alors, sous couvert d'humour dans Oriental Express, vous livrez aussi vos réflexions sur la marche du monde. Par exemple, sur les consultants des grands cabinets, vous écrivez « Leur métier, c'est de vendre très cher au gouvernement des pays cibles, des analyses et des recommandations tirées des travaux de leurs propres hauts fonctionnaires, mais avec un tampon extérieur pour les valider. »
En fait, j'avais remarqué ça au Maroc. Je me disais, pourquoi le Maroc, qui a des hauts fonctionnaires brillants qui sont formés en France ou ailleurs, donc au Maroc, parce que je passe beaucoup de temps au Maroc, je m'étais dit, pourquoi le Maroc va utiliser le McKinsey ou le BCG ou autre. Et puis après, je me suis aperçu que la France faisait pareil, qu'en fait, tout le monde faisait pareil. Ça permet de dire, si une réforme ne marche pas, je ne vais pas parler de la réforme des retraites, mais si une réforme ne marche pas, on dit, c'est pas de notre faute, elle avait été validée par McKinsey qui conseille 45 pays sur 100, enfin, moi j'avoue que ça me surprend un peu, parce que je pense que, par exemple, pour la réforme de la DGSE, je pense qu'ils ont dû faire appel à un tas de consultants, bon, français cette fois, qu'ils ont dû passer, j'avais mis ça sur Facebook, hein, de façon ironique, en disant, ils m'auraient appelé, ils auraient gagné quelques heures de lecture de PowerPoint. Ouais.
Alors, autre citation qui vient de votre roman, « Le vrai secret des vendeurs d'armes français comme américains ou russes, c'est que le profit n'est pas dans le prix de vente du navire, du blindé ou de l'avion, mais comme chez Darty ou à la Fnac, dans les services qui vont avec, maintenance, électronique, formation. » C'est ce genre de considération que vous avez à l'esprit quand on évoque dans la presse des contrats d'armement ?
Oui, tout à fait. Alors, j'avais remarqué ça avant, ça fait 17 ans que je suis à la tête de l'école de journalisme, avant, je faisais de la finance et j'avais, entre autres secteurs sous ma responsabilité, celui de l'armement. Et j'avais remarqué que, on étudiait dans un cabinet de conseil, oui, en fait, ce que je critique, j'étais en train de le faire avant. On avait étudié, en fait, ce qui était rentable dans l'armement. Et l'armement, j'ai oublié un point dans le livre, c'est il y a les services avec, mais il y a le consommable aussi. Donc, quand vous vendez un Mirage, ce qui est intéressant, c'est de vendre 1, 2, 3, 4, 5 missiles Exocet, des bombes, et d'actualiser les logiciels de navigation, etc. J'avais étudié le fait pourquoi le Maroc avait acheté il y a 5 ou 6 ans des chars Abrams M1 américains au lieu d'acheter des chars Leclerc. Bah, la réponse, elle était claire. Les Français vendaient ça au prix coûtant, c'est-à-dire de mémoire, c'est 5 millions d'euros, et comme ils ont des petites séries. Et les Américains vendaient leurs chars 3 millions. Donc si j'étais à la place des Marocains, bah, je préfère acheter à 3 millions. Et les Américains vendaient à prix coûtant aussi. Mais avec ce sens du business qu'ont les Américains, c'est-à-dire qu'eux, ils avaient pensé à mettre la clim, moyennant un petit supplément dans la climatisation, pardon, dans le char. Et c'est vrai, quand j'ai discuté avec des intermédiaires qui vendent de l'armement, enfin des choses moins létales, et c'est exactement ça. Donc tout ce que j'affirme, quand je sais pas, je dis pas. Quand je sais, c'est que je sais.
Alors, vous faites dire au narrateur, je m'imagine en SAS, le héros de la série de Gérard de Villiers, un ancien de mon école et au passage recordman en kilos de papier de livres vendus en français. Cette série était très appréciée des journalistes, mais aussi des politiques, parce qu'elle était extraordinairement informée. Est-ce que finalement, ça n'est pas cela que vous essayez de prolonger, raconter en quelque sorte les aventures d'un SAS en 2023?
Je pense que tous les plus de 50 ans, dont hélas je fais partie, on a tous baigné dans SAS, dans notre jeunesse. J'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années une des veuves de Gérard de Villiers, et qui m'avait raconté en fait comment ça se passait. Donc Gérard de Villiers, ça se traînait à écrire 4 feuillets tous les soirs, quelle que soit l'heure, et il recevait, me dit sa veuve, des messieurs en gris qui venaient apporter des gros dossiers vers 19h et qui venaient les rechercher le matin à 7h. Et c'est vrai que quand je dis l'action d'un SAS, d'un livre de SAS qui se passe dans un pays précis que je connais, il y en a quelques-uns que je connais sur le bout des doigts, c'est exactement la réalité géopolitique du pays. Mais pour l'important, c'est que moi, je fais ça pour m'amuser, mais aussi pour... Disons que je suis une sorte de journaliste qui n'est pas pressé, qui n'a pas la pression de l'actualité, mais pour les gens qui connaissent un peu le sujet Algérie et Maroc, et en France, ils sont assez nombreux, ils devraient quand même comprendre pas mal de choses sur ce qui se passe entre les deux pays.
Merci Guillaume Jobin. Je rappelle que vous publiez Oriental Express, un roman publié aux éditions Casa Express. Merci d'avoir été l'invité de la bibliothèque de Radio Orient.
Merci Loïc Barrière.
C'était la bibliothèque de Radio Orient avec Loïc Barrière.